Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Colette Brin, bonjour.
Bonjour Hugo.
Bienvenue à Entretien journalistique.
Avec plaisir.
Écoute, je pense que tu es la première que je reçois chez moi, parce qu'avant la pandémie, je recevais beaucoup d'invités à la maison. Et évidemment, avec la pandémie, on est passé à distance. J'ai fait quelques épisodes en présent. J'haïs l'expression présentielle, mais c'était ça le contexte, donc avec des gens sur place. Mais je pense que tu es la première que je réaccueille, ou en tout cas que j'accueille, dans mon studio, appelons ça un studio, qui est en fait ma cuisine.
Charmant studio, très bon café, très voilà. Heureuse d'être à Montréal, donc, je recommande.
Ben, tant mieux. Donc, on est là pour parler aujourd'hui d'un sondage qui est sorti il y a maintenant, je pense, 2 semaines. Un sondage crop sur les habitudes de consommation de nouvelles des internautes québécois dans le contexte du blocage des nouvelles par Facebook, donc en vertu de la loi C-18, la loi sur les nouvelles en ligne. Tu es là pour nous en parler parce que tu es la directrice du Centre d'études sur les médias à l'Université Laval. Tu es également professeur titulaire au département d'information et de communication. Donc, tout un titre.
Et je tiens à dire que c'est le Centre d'études sur les médias qui a commandé ce sondage à CROP. On voulait vraiment savoir comment les gens percevaient et réagissaient à ce blocage.
Oui. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est beaucoup ressorti dans les médias, c'est que, bon, les 18-34 ans sont encore sur Facebook, sur Instagram pour s'informer, ou ça, en tout cas, ça peut ou pas changer leurs habitudes de consommation de nouvelles. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que ces gens-là consomment comme information? Parce que, bon, peut-être que c'est juste moi, mais évidemment, bon, les grands médias sont bloqués, Radio-Canada, Québécois, Le Devoir, les grands médias internationaux sont bloqués, New York Times, Al Jazeera, BBC, bon, à peu près tout ce qu'on veut comme grand nom. Ces gens-là lisent quoi?
Ben justement, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'informer? Ouais. Le sondage, évidemment, ne va pas plus loin. Là, il faudrait faire une enquête peut-être plus qualitative pour savoir comment les gens perçoivent. On leur donne un peu un cadre. Là, on dit votre consultation de nouvelles et d'actualité, c'est-à-dire vos habitudes de lire, regarder, commenter ou partager des nouvelles. Alors, quand on parle de nouvelles, ça peut être effectivement très large, là. On comprend que c'est pas sur le cercle d'amis ou sur les activités très, très personnelles, mais le rapport à l'actualité, on le savait déjà chez les jeunes, est très différent. Mm-hmm. Le rapport aux médias d'information est beaucoup plus faible, hein. Ils ont grandi, ils ont été socialisés dans un monde où un environnement médiatique où les médias d'information traditionnels ne dominaient plus. Donc, pour eux, ces médias-là, bon, dans le pire des cas, c'est les médias de papa-maman, grand-papa, grand-maman. Mm-hmm. Dans le meilleur des cas, c'est des sources parmi d'autres. Alors, quand ils sont en contact avec l'actualité, ça peut vouloir dire tout simplement que leur TikToker préféré parle du Hamas aujourd'hui.
OK.
Alors, c'est ça qu'on veut dire par contact avec l'actualité. Et quand tu dis « ils sont sur Facebook, Instagram pour s'informer », en fait, personne n'est sur Facebook et Instagram pour s'informer. C'est quelque chose qu'on fait presque accidentellement quand on est sur ces plateformes-là. Et puis, ces plateformes-là nous ont habitués aussi à cette commodité d'être là pour se distraire, pour voir toutes sortes de petites vidéos, de prendre des nouvelles de nos amis, mais aussi par la bande de s'informer. Et bien sûr, les médias ont participé à ça parce que, comme tout le monde était là, ils voulaient justement rejoindre les publics par ce moyen-là. Et moi, je ne suis pas seule de ceux qui jettent la pierre aux médias en disant « Ah, ben ils avaient juste à pas aller là, ils avaient juste à être plus intelligents que Facebook et Google, puis à développer leurs propres algorithmes. » Ça m'apparaît un peu...
Avec quel argent?
Oui, ben argent, expertise, etc. Ouais. C'est pas ça l'expertise des médias de développer des algorithmes. Et inversement, c'est pas l'expertise de Facebook et Google de créer des contenus d'actualité locale, et encore moins au Québec.
Non, effectivement, mais bon, l'impression que ça donne, et peut-être que dans 6 mois, 1 an, s'il y a un sondage similaire qui fait, la tendance va avoir changé, mais l'impression que ça donne, c'est que toute cette campagne, tous les grands médias, encore une fois, ont fait des campagnes répétées, c'est encore le cas de vous n'êtes plus en mesure de voir les nouvelles sur Internet, abonnez-vous à notre application, à notre infolette, abonnez-vous à notre journal. Et bon, dans les cercles de journalistes, toi et moi, on était sans doute dans les cercles similaires, on est très heureux de payer pour du contenu. Dans une certaine limite, peut-être, là, il y a des... ni toi ni moi n'avons les poches excessivement profondes pour dire on s'abonne à tous les médias et on donne tout notre argent pour s'informer. Mais on est prêts, peut-être plus prêts que la moyenne des gens prêts à dire, bon, ben, je mets 100$ par année ou 200$ par année pour le devoir. Je mets, New York Times, je pense qu'on peut avoir un abonnement à 100$ par année ou je sors un chiffre de ma tête comme ça, là. Mais est-ce que ça démontre à ce moment-là que cette campagne-là de sensibilisation, cette campagne-là de dire, essayer de pousser les gens, les internautes à aller s'abonner, fonctionne pas vraiment pour l'instant?
Ben, encore une fois, l'environnement numérique nous a habitués à la gratuité des contenus.
Ça, oui.
On a aussi, au Québec, au Canada, quelque chose qui s'appelle le diffuseur public, Radio-Canada, qui fournit tous ses contenus gratuitement, enfin, sauf RDI, mais ça, c'est une autre histoire. mais bon, on a accès à des contenus d'information, y compris de l'information locale, disons à Montréal, là, parlons pas du quartier là où tu habites, mais...
Oui.
J'en sais rien, mais de manière générale, l'actualité est quand même assez facilement accessible en ligne de manière gratuite. Donc, on ne voit pas nécessairement l'intérêt de payer pour s'abonner à des informations en ligne, ni la pertinence. Les dernières années, on a collecté des données dans un autre sondage qui s'appelle le Digital News Report. Donc, chaque année, on fait cette enquête sur les habitudes, les perceptions de l'actualité selon les enjeux du moment. Et les gens qui disent déjà payer pour de l'information en ligne, donc là, on parle juste d'information en ligne, on parle pas de l'abonnement au câble ou l'abonnement à un journal papier, s'il y en a encore, oui, il y en a encore.
Oui.
C'est autour de 10 et 13% de la population. Ça fluctue, ça a un peu baissé, ça avait remonté puis ça a rebaissé, donc ça tourne autour de ces chiffres-là. On a maintenant des crédits d'impôt pour certains abonnements en ligne qui visent justement à stimuler ces dépenses-là. Et on voit que, en fait, ce qu'on sait, c'est que dans la population, on calcule un budget média. Et dans ce budget média, il y a Netflix, il y a toutes les plateformes de contenu, de divertissement. Enfin, il y a du très bon contenu sur ces plateformes-là, mais pas beaucoup d'informations, là. On dit, je paye pour tout ça, je vais pas en plus payer pour m'abonner au Devoir, là, qui serait un bon exemple là, d'un contenu qui coûte quand même assez cher comme abonnement, même s'il y a un crédit d'impôt. C'est embêtant, là, parce que, d'une part, la population n'est pas très chaude à l'idée de financer davantage par les impôts ou par les crédits des fonds publics les médias d'information. Et d'autre part, ils ne veulent pas non plus payer pour ces contenus. Donc, puis là, ils disent aussi, il y a un autre sondage qui est sorti juste avant le nôtre, qui disait, on leur a posé la question, pensez-vous que les médias peuvent se financer par d'autres moyens? Puis ça, évidemment, les gens disent oui, mais ils n'en ont en fait aucune idée.
On va tous se mettre à l'exploitation pétrolière ou au casino, je ne sais pas. On va trouver des solutions. C'est quand même c'est une perspective un peu... Je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, quand on est dans les médias, on est souvent beaucoup dans les médias, c'est-à-dire que nos amis sont des journalistes, nos connaissances sont des journalistes ou des gens spécialisés en information. On a ça à cœur parce que c'est notre job, parce que souvent c'est notre passion. Et là, on se rend compte qu'effectivement, quand on sort de cette bulle-là, les chiffres que tu mentionnais, ça correspond, bon, clairement, ça certainement correspond à la réalité, mais c'est un peu un... pas que ça vient briser nos illusions, mais disons que ça vient un peu fragiliser cette vision-là qu'on se fait du journaliste comme étant un service essentiel et que les gens seraient heureux pour lesquels les gens seraient heureux de payer au moins quelques dollars pour dire, ça m'aide à comprendre comment le monde fonctionne. Je pense que la BBC, il y a un certain temps, The Guardian, disait, on a réussi à atteindre je pense que c'est la stabilité financière, ou en tout cas quelque chose comme ça. Il annonçait, bon, on a franchi une étape dans la stabilité financière. On a, je pense qu'il disait 1 million d'abonnés payants en ligne. Bon, félicitations, c'est un excellent, une grande nouvelle. Mais après ça, si on continue à lire, on se rend compte qu'ils ont 1 milliard de visiteurs sur leur site.
Donc, c'est un excellent exemple de Guardian pour montrer tout ce qui va mal. C'est un excellent média. Mais ce que je veux dire, comment on peut pas s'appuyer sur la philanthropie, sur la, les abonnements pour soutenir un média au Québec? Là, parce que le Guardian, c'est un média international de langue anglaise. Déjà avec une excellente réputation, donc on comprend que, puis qui rejoint aussi des lecteurs plus jeunes, qui a une posture un peu progressiste, qui a un ton qui a vraiment... Eh bien, ce média-là est appuyé sur une fondation richissime qui, pendant... Enfin, qui, de ce qu'on me dit, est contente quand le Guardian ne perd pas d'argent. Donc, ils sont prêts à... Ils ont les poches profondes, justement. Ils sont prêts à soutenir ad vitam aeternam ce journal-là. Donc, on comprend que ça leur donne une marge de manœuvre plus intéressante qu'un média comme le vôtre. Et ils ont aussi accès à un public beaucoup, beaucoup plus large. Donc, effectivement, sur le milliard de visiteurs, s'il y en a 1 million qui payent, ils sont contents. Alors, on comprend, là, par ordre de grandeur, là, pour le Québec, on a un problème avec ça. Le média qui se rapproche le plus de ce modèle-là au Québec, c'est la presse, qui a justement bénéficié d'une contribution philanthropique de son ancien propriétaire au départ, quand ils ont changé de modèle, et qui jouit aussi d'une excellente réputation professionnelle. Ouais. Donc, ils réussissent à s'en tirer. Ils ont aussi une application.
Ils ont changé de modèle. Il n'y a plus la version papier. Ouais. Ils ont vendu les journaux régionaux.
Exact.
Ça s'est complètement transformé, là.
Et ces journaux-là aussi, bon, ça c'est un autre cas, là, mais les coop de l'info, c'est pas un modèle facile là, à gérer et à faire fructifier, malgré la qualité de ce qu'ils produisent. Là, sur le plan du modèle d'affaires, c'est vraiment pas simple.
L'impression qu'on a, puis bon, j'avais fait un épisode il y a quelques mois maintenant, peut-être, avec des gens justement du milieu, parler de ces 18 qui, à l'époque, étaient plus un... La perspective d'un blocage était plus une perspective plutôt que de dire, bon, c'est en train de se faire. Et là, bon, on est vraiment dedans. Facebook, ça fait déjà plusieurs mois. Là, Google vient d'annoncer, puis bon, c'est une tactique de négociation, clairement, mais il vient d'annoncer qu'il pourrait, peut-être, s'ils sont pas contents, en décembre, quand la loi va entrer en vigueur, ils pourraient bloquer les résultats de recherche liés au contenu de nouvelles. On espère, en tout cas moi personnellement, on se dit bon ben ça va être un moment difficile à passer, ça va être un 6 mois, 1 an difficile à passer, on va être difficilement trouvable sur Internet, puis après ça les choses vont s'arranger magiquement.
Non,
ça va revenir.
Non, en fait chaque semaine, chaque mois qui passe dans ce bras de fer coûte extrêmement cher aux médias. Et bon, le sondage qu'on a fait montre qu'au Québec il y a quand même, puis encore une fois là c'est le verre à moitié plein, parce qu'on voit qu'il y a à peu près la moitié des gens qui sont favorables à ce que Meta contribue, compense. Ben, on parle de Meta, parce qu'à l'époque, quand on a fait le sondage, Google n'avait pas encore annoncé cela, et qui ont aussi une attitude, je dirais, assez favorable quant au rôle du gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Oui. Donc, quand on leur demande si vous considérez que le gouvernement fédéral a une responsabilité dans l'accès à une information de qualité, ben la moyenne, c'est 7,9 sur 10. Ouais. Les médias, c'est 8,1. Ça vous donne une idée. Google, 6,9. Facebook, 6,2. Donc, on comprend là, qu'il y a un écart entre la perception de la responsabilité puis peut-être indirectement la confiance qu'on a dans les gouvernements par rapport aux plateformes. Même Google, qui est une plateforme d'information à la base, enfin de gestion d'information, une espèce de petit bibliothécaire algorithmique. Mais ce que Google fait, de ce que je peux comprendre, c'est le gouvernement a proposé un projet de règlement avec un peu de détails sur comment la loi va s'appliquer. Et ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin pour... Ben, en tout cas, beaucoup. Pas mal d'eau dans leur vin pour accommoder Google. Ils ont réduit le montant que Google devait contribuer. Ils ont aménagé des modalités d'exemption, donc les plateformes pouvaient prendre des ententes avec les médias, mais ils ont quand même conservé des mesures, si on veut, d'équité pour les plus petits médias, pour les médias de langue officielle minoritaire, pour les médias autochtones, pour les médias de différents groupes de la diversité, etc., ou des petits médias. Et c'était encore trop, là. Alors, Google, sa position, c'est qu'ils font pas d'argent avec l'information, ou en tout cas pas beaucoup.
Ouais.
Au Canada, et autant pour Google que pour Meta, là, c'est l'idée du précédent aussi que ça présente pour les autres.
C'est exactement ce que j'allais dire. Là. Il y a eu le cas australien il y a un certain temps déjà, où justement Facebook avait bloqué pendant une semaine toutes les nouvelles sur Facebook en Australie, donc, et ça avait bloqué un paquet de sites qui n'avaient pas rapport avec les médias, et les gens avaient, bon, avec raison, un peu étaient un peu montés aux barricades, il y avait une négociation, tout ça. Et l'impression qu'on a, c'est que là, chaque pays qui s'essaye en disant « Ouais, on aimerait ça que vous donniez un petit peu un peu d'argent aux médias, parce que, bon, ces contenus-là servent à afficher de la publicité. Sur Facebook, un article, bon, publié, les gens vont commenter, donc il va y avoir une interaction. Encore une fois, l'option d'afficher de la publicité autour de tout ça, ça fait de l'argent pour Facebook, Instagram. Donc, on a l'impression que chaque pays qui s'essaye va se faire dire, ben, nous, on refuse de vous accommoder là parce qu'on sait que l'Union européenne pourrait le faire, parce qu'on sait que les États-Unis pourraient le faire. Et là, à ce moment-là, si ça passe là-bas, c'est pas juste le Canada avec ses 30 millions d'habitants, 30 quelques mille, 40 maintenant, en fait, millions d'habitants. C'est les États-Unis avec leurs 350 millions d'habitants, idem en Europe avec à peu près le même nombre de personnes. C'est des gros joueurs qu'on veut décourager peut-être de s'avancer.
Dans mettons que les États-Unis, c'est pas tellement dans leur ADN, puis dans le contexte politique, c'est pas évident. Moi, je m'attends pas à ce que les États-Unis se mettent à peut-être la Californie,
ben, c'est ce
certains
que
États,
dire, la Californie,
mais les États-Unis dans leur ensemble, c'est une vue comme une position assez radicale que de vouloir mettre au pas. Évidemment, ils ont des lois antitrust, ils ont des mesures, mais ces entreprises-là sont vraiment le fleuron et de l'économie américaine, et ils soutiennent aussi beaucoup les candidats et les partis politiques. Donc, je ne m'attends pas à ce que Google et même Meta soient mis au pas par le gouvernement américain. L'Union européenne, par contre, oui. Et d'ailleurs, on voit déjà les fruits de leur pression, de leurs moyens. C'est compliqué, l'Union européenne, mais ces pressions-là portent fruit, puis je pense que le Canada voulait s'inscrire dans ce mouvement-là. Je veux dire, on peut voir ce qui se passe, puis moi, je trouve ça fascinant de suivre le débat sur X et sur d'autres plateformes, parce qu'au Québec, on entend beaucoup les ténors du monde des médias qui défendent cette loi et qui défendent l'idée que les médias ont droit à leur part du gâteau et que l'information est un bien public, etc. J'en suis. Mais d'autre part, il y a quelque chose d'un peu bancal dans cette loi-là qui vise à régler deux problèmes. C'est-à-dire, d'une part, les problèmes financiers, les problèmes de survie des médias, donc de créer une espèce de source de financement, puis en même temps de mettre au pas les plateformes.
Ouais.
Puis l'arrimage entre les deux n'est pas très clair. C'est-à-dire que l'idée de dire « Ah, les plateformes ont volé aux médias des revenus publicitaires », c'est un peu difficile à défendre.
Ouais.
C'est des plateformes qui ont développé des nouveaux produits puis des nouvelles façons de monétiser leur présence sur Internet. Bon, je ne suis pas une spécialiste de la régulation des plateformes, mais beaucoup de juristes disent que ce serait une approche beaucoup plus féconde que de miser sur la protection des données personnelles puis de réglementer ça, ce qui viendrait un peu affaiblir la présence de ces géants-là. Et d'autre part, soutenir les médias par d'autres moyens.
Ouais.
Ce que les gouvernements font déjà là, au Canada et au Québec. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que toute l'aide gouvernementale ne réglera pas le problème de fond et ça demeure une béquille parce que les médias... est-ce qu'on veut, dans le fond, que les médias... Et je pose la question sans y répondre. Là, est-ce qu'on veut que les médias d'information deviennent un service public? C'est-à-dire qu'on ait des Radio-Canada et des différentes versions de Radio-Canada qui existent dans l'écosystème.
Oui.
Un Radio-Canada de droite, un Radio-Canada pour la Côte-Nord, un Radio-Canada à Montréal, un Radio-Canada autochtone,
oui,
etc.
Oui.
Ben, on a déjà un peu ça, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut encore espérer un écosystème médiatique qui est diversifié avec des entreprises... des grandes entreprises avec des petites entreprises et des médias communautaires, mm-hmm. des PME, etc. Là, actuellement, et qui font du journalisme aussi. Ouais. Pas juste des médias qui disent « oui, nous, on parle d'actualité, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment du divertissement, il n'y a pas vraiment de recherche, il n'y a pas de travail de terrain, tout ce qu'on fait, c'est surfer un peu sur l'actualité ». C'est vraiment ça, moi, qui m'inquiète, c'est le travail de fond. Puis j'aurais peut-être dû le dire au début, là, après la longue liste de mes titres, là, que je suis aussi présidente du comité consultatif indépendant pour les crédits d'impôt fédéraux. Et à ce titre, je suis témoin, en fait, de la transformation de l'écosystème, parce qu'on voit passer toutes sortes de médias, bon, qui ont des médias traditionnels, des médias, des hebdos, qui en arrachent. On voit passer des nouveaux modèles aussi qui, souvent, s'appuient beaucoup, beaucoup sur le contenu très promotionnel, hein, ou des contenus qui sont simplement agrégés d'autres sources. Alors, on fait une synthèse de ce que d'autres médias ont dit sans faire aucun travail original, aucune entrevue, aucun travail de terrain. Alors, il y a pas vraiment de nouveaux modèles, là, de nouvelles pousses. Il y en a quelques-unes, mais c'est extrêmement rare, qui font un vrai travail journalistique. Puis parfois, je me demande si la société en veut vraiment de ça, du journalisme. Mais bon, on va pas se mettre à pleurer dans notre café. Là.
Mais c'est, évidemment, c'est que ça coûte très cher. C'est des gens, encore une fois, tu l'as mentionné, des gens sur le terrain, et on parlera pas de gens à l'étranger, faire des reportages internationaux, ça coûte encore plus cher.
De l'enquête.
Aussi, ben ça aussi, puis ça prend, à ce moment-là, ça prend un service juridique, ce qui est extrêmement cher aussi. Donc, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant cette semaine, la ministre Pascale Saint-Onge, ministre du Patrimoine, qui est à la tête, là, de cette offensive, ou en tout cas de ces négociations un peu tendues, appelons ça comme ça, entre le fédéral et Meta et Google, de dire, bon, la loi n'est pas parfaite, mais il faut aller de l'avant parce que ça presse de réglementer les plateformes. Et c'est peut-être vrai que dans un certain sens, le politique a toujours été un peu en retard sur les Absolument. Transformations technologiques. Mais là, bon, encore une fois, c'est que là, on est dans l'inconnu. Là. On ne sait pas, en décembre, ça s'en vient vite. Il reste 2 mois à peu près. Est-ce que demain matin, demain matin étant le 18 ou 19 décembre, je pense que c'était la date avancée par Google. Est-ce qu'on va se retrouver avec une incapacité? Parce que de ne pas voir les nouvelles sur Facebook, bon, c'est plate. Mais on fait
partie. Ça a un impact quand même financier très important sur les médias. Il y a certains médias qui avaient beaucoup misé là-dessus, puis bon, et qui se retrouvent avec des baisses de trafic très importantes.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce contenu-là reste accessible ailleurs. Par contre, si on ne peut plus utiliser le principal moteur de recherche de la planète pour chercher Pieuvre ou pour chercher Le Devoir ou Radio-Canada, ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait?
C'est pour ça que Google n'a pas encore mis ses menaces à exécution. Ils sont dans une position beaucoup plus délicate. Mm-hmm. Facebook peut très bien, ou Meta peut très bien se passer d'informations, même si les médias, et moi aussi je leur reproche ça, mais c'est pas leur mission. Alors que Google, c'est un moteur de recherche sur l'information, et Google News, c'est un moteur de recherche sur l'actualité. Mm-hmm. Ils ont déjà fait ça ailleurs, en France, dans d'autres pays européens. Ils ont bloqué l'accès à Google News. On comprend que politiquement, c'est très, très délicat pour eux de le faire. Donc, ils vont le faire vraiment en dernière extrémité. Pour le moment, hein, ils agitent la menace. Et ils l'ont ressorti, hein, ils avaient calmé le jeu avec l'arrivée de la nouvelle ministre, et donc on sentait qu'ils voulaient, ils étaient ouverts, ils étaient à la table, comme on disait, mais là, ils viennent d'envoyer un message, non, là, c'est pas assez, on n'est pas content, mais ils profitent aussi de l'efficacité des mesures de Meta, là. Alors, ils sont dans une position un peu d'attente et de réaction. Mais je ne sais pas, on n'a pas mesuré ça dans notre sondage, mais ça serait la prochaine étape, là, si Google met ses menaces à exécution. comment ça serait reçu par la population, mm-hmm. parce que ça pourrait être vu. Évidemment, les gens qui s'opposent à la loi, ils voient la preuve de l'échec de la loi, mais on peut y voir un geste de force et un geste de censure très, très mm-hmm. dommageable là, pour la démocratie canadienne et québécoise.
Évidemment, ni toi ni moi ne sommes spécialistes politiques ou du droit, mais là, c'est ça, c'est la question de est-ce qu'une entreprise... parce que oui, ils ont le droit de ne pas afficher certains contenus. C'est une entreprise privée qui décide ce qu'ils montrent ou non dans leur système. Mais dans une entreprise en position de monopole, pratiquement, est-ce qu'une entreprise peut défier le pouvoir d'un gouvernement?
Au point ben de, oui, ils le font.
Mais ils le font. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que... Effectivement, jusqu'où ça va? Puis bon, c'est très hypothétique
ben,
comme
pense,
question.
Moi, ce que je dis depuis le début, c'est ce qui compte, c'est la réaction de la population. Mm-hmm. Et si la population s'oppose en masse à cette... je pense qu'un blocage de Google News va beaucoup plus paraître que Facebook et que sur le plan de la légitimité, si on veut, ça va faire réagir plus les gens, mais peut-être que non. Peut-être que les gens vont aller directement sur des sites d'information ou bien ils vont continuer à utiliser Twitter ou d'autres sources de manière plus ou moins
Twitter
fiable.
Twitter étant Twitter aussi, là. Ou devrait-on plutôt dire X maintenant? Ça, c'est une autre chose.
Ça reste des plateformes qui ne sont pas utilisées par une très grande partie de la population. Mais on voit, puis c'est ce qu'on voit aussi dans le sondage, c'est qu'il y a encore une bonne partie de la population plus âgée qui ne s'informent pas sur les médias sociaux, qui utilisent encore les plateformes traditionnelles en priorité. Puis c'est ça, le fait que les pratiques soient tellement éclatées font en sorte que... Mais je ne peux pas croire qu'un geste comme ça, comme Google, n'aurait pas d'impact dans la population. J'ai l'impression qu'il y aurait une réaction plus forte qu'au geste de Facebook. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne font rien pour le moment. Mais ça met quand même une pression sur le gouvernement de reculer encore davantage puis d'affaiblir dans le fond sa loi. Puis là, c'est de savoir je n'ai pas parlé à Mme Saint-Onge récemment, là, depuis qu'elle est ministre et encore moins depuis qu'elle est dans ce ministère, mais jusqu'où ils sont prêts à aller, quel est leur plan de négociation avec les plateformes, parce que c'est vraiment ça qui va faire dénouer l'impasse. Mm-hmm. Il faut qu'ils trouvent une solution négociée, puis là, la température vient de monter.
Oui. Récemment, je pense que Boris Proulx du Devoir mentionnait là, le montant. Ottawa voulait aller chercher 172 millions de dollars. Google serait prêt, c'est vraiment une rumeur, à payer 100 millions. Il y aurait peut-être un 72 millions là, d'écart.
Au moins on croirait qu'à 72 millions là, pour Google, il serait pas sorti là, comme ça.
En fait, c'est peut-être une question de principe. Moi, je sais aussi, j'ai fait quelques petites recherches récemment. Je m'interrogeais sur YouTube qui s'attaque aux bloqueurs de publicité, qui est un autre aspect de Google. Mais Google a récemment fait des revenus, c'est pas nécessairement des profits, évidemment, mais des revenus de 53 milliards de dollars. Donc, on pourrait se demander, on se dit, est-ce qu'à ce moment-là, justement, même 172 millions... Est-ce que c'est de la monnaie pour aller faire l'épicerie? Est-ce que c'est vraiment un montant conséquent? Je laisse ça évidemment aux gens de chez Google. Mais effectivement, ces montants-là sont tellement gigantesques. Même 172 millions.
Gigantesque et non, parce que si on parle de 172, même 200 millions là, pour prendre un chiffre rond, c'est pas ça qui va sauver les médias au Canada.
Effectivement.
Mais c'est un début, c'est vraiment une. C'est... Moi, je vois ça vraiment. On utilise le terme de bras de fer. Là, c'est vraiment un rapport de force. Là. C'est à la limite, c'est presque plus une question d'argent. C'est vraiment une question de. Google ne veut pas donner l'impression d'avoir perdu la bataille parce qu'il y a d'autres batailles qui s'en viennent. Voilà. Mais bon, pour le moment, on est dans la spéculation. Là. C'est pas très. Je pense pas que ça nous avance beaucoup là, d'avoir cette discussion-là. Je comprends qu'on se pose beaucoup de questions.
Oui, ben, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations non plus.
Exact.
C'est à huis clos.
Mais ça, la question de la transparence de tout ce processus-là, c'est quelque chose que le gouvernement fédéral voulait parce que c'était ce qu'on avait reproché à l'Australie. Parce que en fait, ce qui est arrivé en Australie, c'est que le blocage s'est fait avant l'adoption de la loi, ce qui a fait reculer le gouvernement, puis revenir vers un modèle vraiment de négociation. Mmh. Et ça, ce que ça veut dire, ce sont des négociations de gré à gré qui sont confidentielles Et selon les spécialistes, on bénéficie aux grands groupes australiens et la population n'est pas en mesure de savoir si ces ententes-là ont vraiment servi à produire du journalisme ou si cet argent-là va plutôt pour les médias là à des formules des stratégies de revenus publicitaires ou carrément à des salaires faramineux pour des dirigeants, là, ça c'est toujours l'épouvantail qu'on brandit et puis parfois avec raison. Mais alors, l'idée que le gouvernement intervient, ça impliquerait qu'il y ait une certaine transparence dans le processus et une certaine équité pour l'ensemble des médias qui auraient droit à ces revenus-là. Et la difficulté, c'est que Google et Meta ne veulent pas se mettre à négocier avec toutes sortes de petits joueurs qui, pour eux, n'ont pas d'importance. Même les gros joueurs au Canada n'ont pas beaucoup d'importance pour eux. Alors, c'est deux logiques complètement opposées. Et le gouvernement fédéral ne veut pas non plus perdre la face à la veille, enfin, à l'approche d'élections, alors qu'il est très, très loin dans les sondages. Il a besoin de protéger son aile gauche, comme on dit. Et c'est une loi qui a été appuyée par les autres partis d'opposition, sauf les conservateurs. Donc, ils veulent conserver, et puis je pense que c'est une question aussi de principe, là, que cette loi-là doit conserver son esprit. Pas seulement une question d'aller chercher de l'argent, mais aussi une question de s'assurer que ça ne profite pas qu'aux grands joueurs qui sont en mesure de négocier des ententes avec ces plateformes-là.
En tout cas, j'ai bien hâte de voir s'il y a un prochain sondage, effectivement, comme je disais tout à l'heure, dans 6 mois, dans 1 an, si les perspectives vont avoir changé. Mais en fait, j'étais pas très étonné de voir qu'effectivement, les plus jeunes... évidemment, on sait qu'ils ont une façon différente de consommer de l'information et ça me fait toujours un peu mal quand je vois que les plus jeunes s'arrêtent à 34 ans. Je me dis, maintenant, je suis rendu dans les plus âgés.
Mais on voit, en fait, parce que ça fait des années qu'on fait ces découpages-là, puis on a toujours dit que c'était les moins de 34 ans parce que ces gens-là sont responsables de tout ce qui va mal. Hein. Mais on voit qu'avec le temps, même les catégories, la catégorie intermédiaire 35-54, a aussi des pratiques plutôt numériques là, en matière d'information et moins, on dit que c'est effectivement à 55 ans et plus, et même à partir de 65, quand on prend la tranche d'âge la plus âgée, c'est vraiment eux qui portent les médias traditionnels, qui continuent à les consommer, qui ont grandi avec ça, qui ont confiance, qui ont une appréciation. On voit que le problème n'est pas seulement chez les 18-34 ans, c'est vraiment à partir de... ceux qui ont grandi avec le numérique, là.
Oui. Mais en même temps, est-ce que c'est un problème dans le sens que ces outils-là existent?
Non, mais ce que je veux dire, pour financer l'écosystème d'information et pour soutenir un journalisme comme on aimerait l'avoir au Québec. Et puis, c'est pas seulement au Québec, c'est le problème. C'est une réalité. Alors, c'est dans ce sens-là que je parle de ça comme d'un problème. Évidemment, je les utilise moi aussi, ces outils-là, je les trouve bien commodes, mais pas vraiment des outils très... Puis d'ailleurs, tout le monde le dit dans les sondages, quand on demande aux gens, est-ce que vous trouvez que ce sont des outils de qualité pour l'information, les gens disent non, mais ils sont tellement pratiques.
Voilà. Ils sont partout, effectivement. On est tous, on peut bien dire, on va fermer notre compte Facebook, mais notre famille est sur Messenger, ou nos amis aussi, on consulte Instagram pour toutes sortes de choses. Google, évidemment, tous les jours.
D'ailleurs, l'utilisation de Facebook est en baisse. La plateforme Facebook, Messenger, ça va effectivement encore très bien, mais le temps passé sur Facebook est en baisse et c'est justement ça l'enjeu. Hein? Mm-hmm. J'ai assisté à une conférence l'autre jour où on montrait que quand on présente l'information selon des critères vraiment algorithmiques, je veux dire, il y a comme un divorce total entre la qualité de l'information et l'engagement sur Facebook. Alors, quand on présente l'information qui est rigoureuse, qui est exigeante, qui est nuancée, qui parle de politique, ça c'est pas bon là, c'est pas bon pour l'entreprise parce que les gens sont pas à l'aise avec ces discussions là, c'est des choses qui sont compliquées. Alors que tout ce qui est agréable, divertissant, plaisant, c'est bon, ça reste, ça garde les gens engagés. Alors c'est un problème C'est un problème de notre époque. C'est un problème de l'environnement numérique dans lequel on est. C'est pas un problème des jeunes. Je pense qu'il faut pas dire ça.
Les jeunes, mais, avec leur musique.
Oui, oui, oui. Mais... ils sont sur TikTok, puis ils savent pas c'est quoi le journaliste. Mais non, mais c'est ça. Donc, on est dans un environnement comme ça où, quand on est plus jeune, on est peut-être moins sensible aux problèmes parce qu'on n'a pas vraiment connu autre chose. Mm-hmm.
Colette Brin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Très intéressant. Bon, évidemment, ceux qui nous écoutent, merci bien sûr d'être fidèles au rendez-vous. Si vous voulez écouter les autres épisodes d'Entretien journalistique, on est sur pieuvre.ca. On est également sur Spotify et Apple Podcasts. Et si, justement, vous voulez échapper aux algorithmes et peut-être éventuellement au blocage des nouvelles, abonnez-vous à notre infolettre. C'est envoyé tous les samedis matin. Ça vous donne accès à l'ensemble des contenus. C'est gratuit, évidemment, et pour vous inscrire, donc vous allez sur le site. Il y a un formulaire à remplir dans la colonne de droite. Ça prend à peu près 5 secondes. Et donc, c'est ça, ça vous donne accès à toutes les critiques, tous les articles, tous les épisodes de podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.